12h15, le journal de Régis Mérilla.
Bonjour, du changement dans l'organisation des pompiers du Jura bernois. Dès aujourd'hui, le centre de renfort A est désormais géré par le corps de sapeurs-pompiers de Tramelan. Jusqu'ici, c'était le CRISM, le centre de renfort d'intervention et de secours de Moutier qui occupait cette tâche. On fait le point en ouverture de journal. UBS rebondit au quatrième trimestre 2024, c'est ce qu'annonce ce matin l'établissement zurichois dans un communiqué. La banque inscrit un bénéfice net de 770 millions de dollars après une perte de 279 millions encaissée un an plus tôt, ce en raison notamment des coûts d'intégration de son ex-rival Crédit Suisse. Les championnats du monde de ski à Saalbach commencent cet après-midi dès 15h15 avec le Team Event, une compétition par équipe qui se déroule sur un géant parallèle. Pour l'occasion, Swiss Ski a mis sur pied un bon quatuor avec Wendy Holdener, la jeune valaisanne Delphine Darbelay, Luca Erni et Thomas Tumler. Au menu météo de ce mardi 4 février, quelques stratus vers 900 mètres qui ne se dissiperont que localement cet après-midi. Au-dessus et ailleurs, le temps sera bien ensoleillé. Pour les températures, comptez maximum 3 degrés sous la grisaille et jusqu'à 7 degrés au soleil. Du changement dans l'organisation des pompiers du Jura bernois, dès ce mardi, le centre de renfort A est désormais géré par le corps de sapeurs-pompiers de Tramelan. Jusqu'ici, c'était le CRISM, le centre de renfort d'intervention et de secours de Moutier, qui occupait cette tâche. Les explications de Séverine Boé.
Un rebattage des cartes et une nouvelle organisation liée au départ de la cité prévotoise dans le canton du Jura le 1er janvier 2026. Il a fallu trouver un nouveau centre de renfort. Le choix s'est donc porté sur Tramelan et les premiers intéressés ne s'attendaient pas à obtenir toutes les responsabilités. Claude Etienne, commandant du centre de renfort de Tramelan.
Moi je ne m'y attendais absolument pas, mon état-major non plus. Ni les autorités communales de Tramelan, ni son centre de renfort n'ont revendiqué quoi que ce soit suite aux votations de Moutier. C'est l'assurance immobilière du canton de Berne, en accord avec l'inspectorat du Jura bernois et la préfecture, qui ont pris la décision de nous donner cette nouvelle fonction.
Une hiérarchie bien précise existe au sein des sapeurs-pompiers. Chacun a un rôle bien défini. Le corps local est en charge des interventions dans les localités qu'il dessert. Il peut demander de l'aide au centre de renfort A, qui dispose de plus de matériel, et notamment d'un camion échelle ou encore pour des secours routiers. Les pompiers de Tramelan, jusqu'ici centre de renfort B, ont donc dû se préparer. On retrouve le commandant Tramelot, Claude Etienne.
Alors, la préparation a débuté dès que nos autorités politiques ont accepté ce nouveau mandat. Des groupes de travail ont été constitués afin d'obtenir du nouveau matériel et des véhicules d'intervention. On a suivi les cours obligatoires pour pouvoir être formé sur les interventions dans les tunnels, par exemple, ainsi que les interventions sur les camions.
Du côté de Moutier, les interventions devraient donc être moins nombreuses en 2025 sans la tâche de centre de renfort. Frédéric Marais, commandant du CRISM.
Pour nous, ça revient à dire que finalement, on va concentrer l'essentiel de nos interventions comme corps local, donc sur la commune de Moutier. On sortira plus à l'extérieur pour appuyer les communes voisines qui auraient besoin d'aide.
À noter que les sapeurs-pompiers de Moutier pourront encore assumer des missions spéciales en 2025. Ils seront ainsi un centre de renfort pour la cité prévotoise. Ce régime dérogatoire concerne uniquement le territoire communal. Le CRISM ne pourra donc plus intervenir sur l'autoroute comme par le passé.
Séverine Boé qui revenait sur le changement dans l'organisation des pompiers du Jura bernois. Les Biennois devront décider si la première heure de stationnement devient gratuite dans les parkings couverts de la ville. L'initiative communale qui demande l'instauration de cette mesure a abouti. Les porteurs du projet ont déposé 2560 signatures à la chancellerie ce matin. C'est bien plus que ce qu'ils devaient réunir d'ici au 15 février. Les initiants affirment que leur proposition a été bien reçue par la population. Leur récolte a-t-elle été facile compte tenu du résultat final? La réponse de Joël Poli, porte-parole du comité d'initiative.
C'est jamais facile de récolter des signatures, mais si le projet est bon, si la proposition est sensée, si selon nous elle répond à une problématique concrète des habitants de Bienne, alors les gens sont d'accord de signer. Et n'oubliez pas qu'une initiative, c'est pour porter le sujet devant le peuple. Donc en fait, c'est pour faire voter le peuple. Et ça, si on aime la démocratie, alors on aime les initiatives.
Vous dites, vous avez convaincu des gens de tous bords politiques. Comment vous pouvez être sûr que des pro-vélos, par exemple, soient favorables à votre initiative?
Parce qu'on les a rencontrés dans la rue et qu'ils nous l'ont dit. Parce que si les véhicules se parquent dans les parkings couverts de manière plus facilement, ils arrêtent de tourner au centre-ville à chercher une place de parc, ça fait moins de véhicules et moins de trafic. Donc, c'est mieux pour le transport en vélo, c'est mieux pour les piétons. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas une initiative qui se limite à un ou deux partis politiques. C'est une initiative qui concerne toute la population du centre-ville biennoise et la qualité de vie du centre-ville.
Vous étiez soutenu hein, par le centre, l'UDC, le PLR. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les partis de gauche aussi pour voir ce qu'ils en pensaient?
On a été soutenu par les partis qui, par le passé, ont aussi soutenu ce genre d'initiative et ce genre de projet. Et par les associations qui défendent des commerçants. Et voilà. Et on n'a pas reçu de soutien d'autres partis politiques. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne se sont pas prononcés contre l'initiative. Je crois qu'il y a juste un ou deux partis qui, dans la presse, s'est montré contre ce projet. Mais on verra après, durant la campagne, quand ça mettra en votation populaire, le mot d'ordre de chaque parti, il devra expliquer aux électeurs, à ses électeurs, pourquoi il est pour ou pourquoi il est contre.
Joël Poli, porte-parole du comité d'initiative, répondait à Anthony Montandon. Le conseil municipal doit maintenant examiner le texte. Le traitement prendra au maximum 2 ans avant que le peuple ne vote. L'affaire a bouleversé bien au-delà du canton de Neuchâtel. Le procès en appel de la tentative de féminicide aux Roches-de-Moron se tient depuis ce matin devant la cour cantonale neuchâteloise. En première instance, l'homme a été condamné à 12 ans et 3 mois de prison pour tentative de meurtre, viol, menace et contrainte. La matinée a été consacrée à l'audition du prévenu. Julien Hirt, vous nous rappelez les temps forts de cette affaire.
Février 2022, un homme de 54 ans enlève son épouse et la force à grimper dans sa voiture. Armé d'un couteau, il vient de violer une mesure d'éloignement mise en place en raison d'une série d'agressions et de menaces et est allé chercher la victime chez leur fils où elle s'était réfugiée. Foudrage, il veut en finir. Il se rend au point de vue des Roches-de-Moron ou Planchette et au volant, il fonce dans le vide. La voiture s'immobilise dans les arbres. Plus de 100 mètres plus bas, le prévenu et la victime survivent par miracle. Novembre 2023, lors du procès en première instance, le tribunal criminel des montagnes neuchâteloises condamne le quinquagénaire à 12 ans et 3 mois de prison, moins que ce que réclamait le ministère public. Celui-ci demande par ailleurs une mesure d'internement pour éviter une vengeance à la sortie de prison. La cour n'accorde qu'une mesure thérapeutique institutionnelle. C'est le prévenu qui fait appel. Il conteste les condamnations pour viol et contrainte sexuelle.
À noter encore que les débats se poursuivent cet après-midi et en principe demain au château à Neuchâtel. Pauline Bessire est la nouvelle directrice de la plage des Six Pompes. La Chaux-de-Fonnière succède à Hugues Houmard à la tête du Festival international des arts de la rue à La Chaux-de-Fonds. Hugues Houmard s'est engagé durant plus de 10 ans au sein de l'organisation. La plage des Six Pompes se tiendra au mois d'août. Les affaires se portent bien pour UBS. La grande banque a annoncé ce matin un bénéfice de 5 milliards de dollars pour l'année 2024. Elle renoue avec les chiffres noirs après une période déficitaire liée à la reprise de Crédit Suisse. La situation semble maintenant se stabiliser. Les précisions de notre correspondante à Berne, Marie Vieumier.
Les résultats d'UBS ont été plombés fin 2023 par le rachat de Crédit Suisse et par les coûts de l'intégration des activités de l'ancienne banque. Mais la tendance est à nouveau au bénéfice depuis le début 2024. En une année, le groupe UBS a augmenté ses revenus de 7% et diminué ses charges d'exploitation de 10%. La banque tire un bilan intermédiaire positif du plan d'intégration de Crédit Suisse qui devrait être achevé fin 2026. Plus de 90% des comptes clients hors Suisse ont déjà été transférés sur les plateformes d'UBS et la migration de la plupart des comptes en Suisse devrait être terminée fin 2025. La banque a aussi prévu de poursuivre son programme de réduction des effectifs. En une année, le total des postes à plein temps a diminué de 3,7%.
UBS constate que les perspectives sont positives pour ce début d'année, mais le comportement des investisseurs pourrait être affecté par les incertitudes concernant la situation géopolitique et le commerce international. Les contribuables suisses versent en moyenne aux cantons et aux communes près de 20% de leurs revenus. Il s'agit du taux le plus élevé jamais atteint depuis 2008. La charge fiscale a augmenté dans la moitié des cantons. Vaud et Genève présentent, comme l'année précédente, les charges fiscales sur les personnes physiques les plus élevées de Suisse. À l'inverse, Zug présente toujours la charge la moins élevée avec 12%. Des données ont été volées sur la plateforme de la Caisse de compensation de Suisse même lors d'une cyberattaque en début d'année. C'est ce qu'indique aujourd'hui l'Association suisse de l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux en précisant qu'aucun argent n'a été volé. Sur son site, la Caisse de compensation Suisse même souligne qu'il n'existe à ce jour, je cite, « aucun indice d'une utilisation abusive des données par les cybercriminels ». Chez les non-fumeurs, un cancer du poumon sur deux est lié à la pollution. Conclusion d'une étude publiée dans la revue Lancet à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer. En 2022, 2,5 millions de personnes ont été diagnostiquées avec un cancer du poumon dans le monde. Le Festival du film de Cannes a choisi Juliette Binoche pour présider le jury de la prochaine manifestation. L'actrice française de 60 ans succède à la réalisatrice de Barbie, Greta Gerwig, présidente l'an dernier. Cette dernière avait décerné la Palme d'Or au film américain Anora de Sean Baker. Pour la deuxième fois dans l'histoire du festival, deux artistes féminines se transmettront ce prestigieux flambeau de la présidence du jury. C'est ce qu'ont souligné les organisateurs dans un communiqué. Cette 78e édition doit se dérouler du 13 au 24 mai.
RJB, il est 12h25.
RJB, sport.
L'équipe de Suisse de ski alpin vit une période dorée et espère la glorifier de nombreuses médailles. Les mondiaux de Saalbach commencent aujourd'hui dans la station autrichienne avec le Team Event. Au programme jusqu'au dimanche 16 février, 11 épreuves. Cet hiver, les Suisses et Suissesses brillent de mille feux et trustent les podiums de Coupe du Monde. Les espoirs de titres et de médailles sont donc grands et légitimes. Jean-Paul Picci.
Il suffit de regarder les résultats obtenus jusqu'ici dans cette saison pour s'en convaincre. La Suisse comptabilise déjà 11 victoires sur le cirque blanc, auquel il faut ajouter 15 podiums. Chez les hommes, l'équipe de vitesse n'a jamais semblé aussi forte, avec déjà 4 doublés en 5 descentes et 4 Suisses aux 5 premières places du classement de la discipline. Tous les regards seront rivés sur le meilleur skieur du monde, Marco Odermatt, qui s'est déjà imposé à 7 reprises cet hiver. Champion du monde en titre de descente et de géant, le Nidwaldien est bien entendu le grand favori à sa propre succession ainsi qu'au titre en Super G qu'il avait manqué voici 2 ans à Courchevel en terminant 4e. Du côté des dames, l'expérience des grands rendez-vous de skieuses chevronnées est un gage d'espérance. En fer de lance, Lara Gut-Bérami, qui va disputer ses 9e mondiaux et qui affiche à son palmarès 8 médailles dans ses joutes. La Tessinoise, qui a annoncé hier que ses mondiaux seraient ses derniers, monte en puissance dans cette saison et peut s'illustrer tant en descente qu'en Super G et en géant. En slalom, le Neuchâtelois des Rémons Loïc Meillard, 2 podiums cet hiver, et la Valaisanne Camille Rast, forte de ses 2 succès jusqu'ici, auront une belle carte à jouer. De quoi se dire que oui, l'équipe de Suisse est en mesure de monter sur le podium dans chacune des 11 disciplines et ainsi faire mieux qu'en France il y a 2 ans où les Helvètes étaient rentrés avec 7 médailles.
Et donc, comme mise en bouche pour ces championnats du monde, le Team Event cet après-midi dès 15h, une épreuve mixte de géants parallèles. La sélection helvétique sera composée de Luca Erni, Thomas Tümmler, Wendy Holdener et Delphine Darbelay. Cette dernière n'était pas forcément attendue sur ces mondiaux de Saalbach. La Valaisanne de 22 ans a pris ses 3 premiers départs de Coupe du Monde en géant cette saison, sans toutefois marquer de points. C'est donc une belle surprise pour elle, d'autant qu'elle apprécie ce genre d'épreuve. Delphine Darbelay.
Je vais essayer de faire mon mieux et... Bah pour moi, c'est voilà, de pouvoir courir pour l'équipe. C'est aussi c'est une autre ambiance, en fait, parce que là, tu cours pas pour toi tout seul. Là, tu cours vraiment pour les autres aussi. Et moi, c'est un truc qui me plaît. Donc je pense qu'on va tous essayer de faire notre mieux.
Les mondiaux de ski alpin commencent donc cet après-midi à Saalbach, en Autriche. Meshack Elia quitte Young Boys. L'attaquant international congolais va terminer la saison avec le FC Nantes. Le club de football de Ligue 1 l'a annoncé hier soir. Il s'est engagé sous forme de prêt avec une option d'achat. Meshack Elia jouait à Young Boys depuis 2020. Et puis, coup d'envoi ce mardi des playoffs de 2e Ligue de hockey sur glace. Ça concerne notamment le HC Saint-Imier qui reçoit Star Chaux-de-Fonds à 20h pour le premier match des quarts de finale. Série qui se joue au meilleur des 3 matchs. Résultat à retrouver demain dans la matinale. À noter que le HC Moutier, qui a terminé premier de la saison régulière, entrera lui en lice directement en demi-finale. Voilà qui marque la fin de ces informations. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de journée sur RJB.
RJB Sport.